Voilà, sans plus tarder, on va partager ensemble la parole de Dieu ce matin avec un sujet qui va finalement nous intéresser finalement chacun d'entre nous. C'est la foi. Quand on a la foi, c'est quelque chose de précieux. On va le voir ensemble, quelque chose de précieux. Et comme c'est quelque chose de précieux, il y a des ennemis qui sont là pour mettre une pression contre la foi, à partir de certaines choses qu'on va développer ensemble. Et on sait que on reconnaît quand c'est des attaques de l'adversaire, c'est parce qu'en fait, il agit toujours de la même manière. Et donc, ce qu'il faisait à une certaine époque, on va le voir avec l'exemple de Daniel, donc le prophète Daniel, ben il le fait encore aujourd'hui. Pareil, sauf qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont davantage acceptées, des choses qu'on laisse, enfin qu'on prend ça comme une info, ou alors c'est dans l'air du temps, c'est comme ça. Et je crois que plus que jamais, le peuple de Dieu a besoin de connaissances, on a besoin de révélations, pas nouvelles, mais fraîches. Encore une fois, pour que on puisse discerner quel temps nous vivons. Alléluia. On sait que la pression contre la foi, c'est un sujet d'attaque régulière, constamment bombardé. À la première seconde, je dirais même à la première millième de seconde, où on donne notre vie au Seigneur, ce qui se passe, c'est que nous changeons de camp. Et nous étions dans un camp, et puis on change de camp, et il y en a un qui est pas content. Il y en a un qui veut pas lâcher. Donc, lui, il va poursuivre tout au long de notre vie une certaine pression sur notre foi afin de pouvoir nous atteindre. Mais c'est la norme chrétienne, finalement. Si quelqu'un vous a présenté un évangile où vous allez donner votre vie au Seigneur et tout va bien se passer, c'est pas le vrai évangile. C'est pas celui que, ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais j'ai vaincu ce monde, alléluia. Et le Seigneur, il nous laisse pas sans ressources, et il nous donne des armes afin que nous puissions combattre, pas par nos propres forces, Éphésiens 6, mais par sa force toute puissante, alléluia. Le but pour chacun d'entre nous, c'est de pas regarder ses armes. À un moment donné, il y a les armes qui sont là, mais c'est de les prendre et d'aller au combat. C'est ça le but que le Seigneur attend pour chacun d'entre nous. Donc c'est la norme quand il y a la pression sur la foi, la marche chrétienne. Et il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Je parlais tout à l'heure, je vous disais que la foi, elle est précieuse. Et c'est l'apôtre Paul qui va le dire. Ce sont quelques versets d'introduction dans 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Là, il emploie certaines images, comme la parole de Dieu sait si bien le faire, pour nous ouvrir un peu l'intelligence et la réflexion. Il est en train de dire, nous portons ce trésor, cette vie de Christ en chacun d'entre nous, dans des vases de terre. Ici, il ramène ça en disant, finalement, on est faible, peut-être insignifiant aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, on va le voir, c'est quelque chose de précieux. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la marque de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans votre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Amen. On arrête là donc la lecture. Ici, on s'aperçoit que l'apôtre Paul est en train de, finalement d'exposer ce qu'est la vie. Donc la vie constamment bombardée, mise sous pression, la foi, la marche avec le Seigneur Jésus. Et il dit, finalement, ce trésor, nous le portons dans des vases de terre, donc l'humilité, la simplicité également, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et il dit, nous sommes pressés. Il va le dire plusieurs fois, dans plusieurs épîtres, que finalement, il a été persécuté pour son seul crime, c'est d'annoncer au monde qu'ils étaient perdus, mais qu'il y avait un Dieu qui voulait les sauver, qui voulait les attirer, les sortir de là où ils étaient. Alors, on sait tout ce qu'il va subir, hein, la prison, à un moment donné, dans l'épître romain, il va dire, mais plusieurs fois, ouais, on a essayé de me tuer, on m'a jeté dans l'eau, je crois qu'il est resté 2 nuits et 3 jours dans l'eau, et il va faire cette déclaration extraordinaire et merveilleuse, et que chacun d'entre nous pouvons retenir, hein. Dans Romains chapitre 8, étant donné, mais rien en fait de tout ça. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que ses regards étaient posés sur Dieu, sur son œuvre. Se rappeler, hein, ce que nous disait tout à l'heure Vincent, on s'est rappelé ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli, et également ses promesses qu'il nous a données. Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à un terme, jusqu'à la fin du monde. Et donc, on est pleinement conscient que le Seigneur, dans nos combats, il est là. Alors, la particularité, c'est quand on est dans la pression, quand on est constamment bombardé, ben on s'aperçoit que finalement, on aurait tendance à oublier. C'est la particularité des épreuves. Des fois, on a cette sensation que Dieu nous a abandonnés, mais nous avons expérimenté, je vous le dis peut-être pour quelqu'un ce matin, Dieu n'abandonne jamais personne. Jamais, 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 jamais. C'est la réalité des choses. Il y a un ennemi qui est là, et on le retrouve dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Regardez comment il agit. Votre adversaire, le diable, il rôde. Il rôde parce qu'en fait, comme un lion rugissant, il cherche une proie. Une proie, donc, à arracher du troupeau, cherchant qui il va dévorer. On connaît tellement de personnes et nos cœurs sont attristés quand on y repense. Certaines personnes qui ont été dévorées par l'adversaire. On l'a vu dimanche dernier, hein, peut-être les raisons, elles sont multiples. Des fois, ça peut de la nonchalance, ça peut être de la nonchalance, de la paresse. Ou alors des fois, trop sûr de soi, je m'en sortirai comme les autres fois. Ne vous inquiétez de rien, pasteur, tout va bien. Et puis on s'aperçoit combien, de moins en moins souvent, toujours submergé par certaines choses. Mais moi j'aime évidemment la parole de Dieu, beaucoup la parole de Dieu, parce qu'il est dit, elle nous avertit. Votre adversaire, d'ailleurs c'est son nom, hein, le diable veut dire adversaire. Il y a un adversaire qui est là. Si on ne vous l'a pas annoncé, il est temps d'ouvrir vos yeux et vos cœurs. Il y a un adversaire qui est là, qui a prévu une seule chose, vous détruire, vous égorger et voler ce que Dieu dépose dans vos cœurs. Et je reste persuadé que chacun d'entre vous, vous avez reçu. D'ailleurs, on a tous reçu. Il n'y a personne ici ce matin qui peut se lever et dire « Mais moi, j'ai rien reçu de la part de Dieu. » On a tous reçu des choses de la part de Dieu. Et l'ennemi, lui, son rôle, c'est de venir voler. Alors, il faut qu'on soit vraiment alerte. Et dans la pression qui est exercée contre notre foi, il y a des pressions de toutes sortes. Et la première des pressions, évidemment, c'est le péché. Aujourd'hui, plus que jamais, on voit que le péché est tellement banalisé. Aujourd'hui, par exemple, hein, aux alentours de 20 heures, on est à table avec les enfants et puis qu'on décide, tiens, on va voir les infos. Vous allez vite vous apercevoir que les pubs juste avant les infos, des fois, elles sont pas regardables en famille. Des choses tellement banalisées, où le péché est là, ancré dans les cœurs, ancré dans les mœurs. Et quand il y a un peuple de Dieu qui se lève en disant « Mais ça, c'est pas bien. Ça, c'est... » Alors là, de suite, on va être vite catalogué en disant qu'on est des extrémistes. Aujourd'hui, c'est à la mode. Hein. Dès qu'on montre finalement les bonnes choses, on va être vite extrémiste. Et donc, ces choses-là, elles arrivent. Il y a des jeunes gens qui ont vécu cette oppression du péché dans la Bible. Et c'est l'exemple que je veux prendre. Donc, c'est Daniel. Daniel, chapitre 1, verset 3, où il y avait des gens dans des situations difficiles. Eux, ils avaient la pression du péché, là, à ce moment-là. Donc, on en parlait hier soir avec les jeunes, juste pour resituer le contexte. C'est Daniel, avec ces jeunes-là, ils se retrouvent dans un pays. C'est parce qu'en fait, ils ont été déracinés de leur propre pays. Certains historiens, théologiens disent qu'ils avaient entre 15, 16, 17 ans et ils voulaient former une élite dans le pays des Chaldéens. Et donc, ils sont allés prendre donc ces jeunes pour les former à la manière, à la mentalité des Chaldéens. Ce qui sous-entend que déjà, il y avait quand même certaines qualités qui étaient là, reconnues, étant donné qu'ils ont été pris, reconnus. Mais eux, si on s'arrête aux 30 secondes, déracinés de leur pays, 15, 16, 17 ans, de leurs parents, de leur famille, se retrouvent dans un pays étranger. Ils sont là, et non seulement, donc, ils sont dans ce pays, il y aurait de quoi, compréhensible, dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu permets cette situation? On sait que le Seigneur a permis cette situation pour que la gloire lui soit rendue parce qu'ils poursuivaient un plan qui, eux, à ce moment-là, ils ont fait confiance en Dieu, mais qu'ils n'avaient pas les tenants, les aboutissants de tout le plan que Dieu avait prévu pour eux. Et donc, dans ce contexte-là, verset 3, le roi donna l'ordre à Akpenas, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Vous voyez ici déjà l'élite. De jeunes garçons, ils étaient comment? Sans défaut corporel. Je ne sais pas s'ils étaient tous les jours à la salle. Sans défaut corporel, beaux de figure. Il y en a quand même, hein. Ils sont privilégiés, hein. Le corps, il y a tout qui est là, beau de figure. Et non, ça s'arrête pas là. Doués de sagesse. Quand même, à jeune âge, ils étaient quand même doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens, c'est ce que j'étais en train de vous dire, donc cette élite, pour inculquer cette mentalité. Vous savez que l'ennemi continue de faire les mêmes dégâts dans les églises, au milieu du peuple de Dieu, en essayant d'inculquer la mentalité du monde. Et quand la mentalité du monde rentre dans l'Église, c'est le début de la fin, en fait. Et nous, on doit préserver obligatoirement ces choses-là. On voit que c'est une épreuve brutale ils ont été frappés d'épreuves brutales, je vous le dis, déracinés de leur pays, de leur famille, de leurs repères. Ils ont été déportés. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que c'était le projet initial de Dieu. Ça nous dépasse, nous. Mais Seigneur, comment? On aime mieux, enfin, je ne sais pas vous, hein, mais moi en tout cas, alors des fois, c'est un peu mon défaut, hein, je lis un livre, je vais essayer, quand je suis pris par l'histoire, d'aller voir vite fait comment elle se termine, en fait. Pas trop la patience, voilà. Et en fait, eux, ils auraient pu se dire, Seigneur, pourquoi tu nous révèles pas finalement ton plan? Ils savaient qu'ils étaient dans le plan de Dieu, mais pourquoi ce plan, il n'est pas révélé? Le Seigneur nous dit que la révélation, elle va toujours en s'accroissant, comme le soleil donc va en grandissant tout au long de la journée. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on exerce simplement la foi. Il nous donne juste l'essentiel en disant, je serai avec toi. Ne crains pas. Je serai là, je serai à tes côtés. Et puis, avec ça, c'est simplement suffisant. Alors, pour la plupart d'entre nous, non. Seigneur, on a besoin de tous les détails, on a tout besoin, détaille-nous tout le plan, afin que nous allions et que notre foi soit inébranlable. En fait, c'est une question de confiance et d'abandon complet au Seigneur en disant, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais une chose, c'est que je lis dans ta parole et tu me le dis à moi personnellement, que tu seras avec moi. Que tu ne me délaisseras pas. Combien de fois, hein, c'est dit dans plusieurs versets qui, en fait, disent la même chose. C'était le projet initial de Dieu. Ils ont été déracinés afin que rien ne repousse. Et ça, c'était l'œuvre de l'ennemi. Il voulait finalement les broyer à la mentalité et leur inculquer cette mentalité, enlever de manière brutale. Et pourtant, il y a eu le projet du roi de Babylone. Hein, c'était la suite... chapitre 1, verset 4, la seconde partie, c'était le projet du roi. À qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens, et c'était le but. À tel point, un peu plus tard, l'ennemi qui poursuivait cette pression contre donc Daniel et ses jeunes gens, à tel point qu'à un moment donné, ils vont dire même, on va vous changer votre nom. Vous n'allez plus vous appeler du nom que vous portez. On va vous le changer pour qu'il y ait finalement une assimilation au peuple des Chaldéens. L'ennemi continue toujours de faire la même chose. Il veut changer notre identité. Et le meilleur moyen de ne pas être troublé par ces choses-là, quand elles arrivent, c'est de savoir qui nous sommes. C'est d'être au clair par rapport à mon identité. J'aime beaucoup le dire, le marteler même. Quand on donne notre vie au Seigneur, la Bible nous dit que nous devenons, à ce moment-là, à la seconde qui suit, enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Et donc, quand on est sûr de notre identité, quand on est sûr qui nous sommes, ce que je disais tout à l'heure, alors on n'est pas ébranlé. On est plein d'assurance parce que Dieu sera avec nous. Nous allons traverser des moments difficiles, et c'est sûr, mais le Seigneur sera avec nous. Parce que le but de l'adversaire, c'était donc détruire, égorger et voler. La vigilance pour nous. Et donc, avec ce péché que l'on voit un peu partout, c'est ces enseignements du monde, les choses tellement banalisées. Alors, juste pour vous donner l'image, hein, si on est juste à train de regarder une pub aujourd'hui, deux personnes du même sexe qui s'embrassent, ça paraît tout à fait normal. Aujourd'hui, hein, dans l'air du temps, voilà. Alors que dans la Bible, et c'est la Bible qui le dit, c'est fortement condamné. C'est quelque chose que le Seigneur réprouve, évidemment. Il y a également, il y a cette pression par rapport au péché, la conformité aux idées du monde. On réagit comme tout le monde. D'accord, je dis on, je parle en général, évidemment, hein. Et dans notre manière d'agir. Et le projet de tout ça. Quand l'ennemi met cette pression du péché contre la foi, contre ceux qui marchent avec le Seigneur, son projet, c'est de nous rendre esclaves. C'est que nous soyons esclaves de certaines choses. Alors que le Seigneur nous a dit que celui qui allait nous affranchir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et du moment qu'on est affranchi, c'est-à-dire le tampon a été posé en bas de la lettre, nous avons un acte légal de liberté. Et quand l'ennemi vient pour nous demander quoi que ce soit, on peut dire, mais moi je suis un enfant de Dieu. J'ai mon laissez-passer. Je suis libre. Alléluia. Amen. Je dis ça parce que souvent ça arrive que plusieurs chrétiens avancent dans leur marche chrétienne et puis vivent encore avec certaines culpabilités alors que le Seigneur les a rendus complètement libres. L'acte légal a été apporté, accordé à la croix du calvaire, et ça sera toujours à la croix l'acte donc qui nous délivre. Amen. Donc le projet de l'ennemi nous rend esclaves. Aujourd'hui, il y a une certaine banalisation du péché, donc la moralité remplacée par l'immoralité, la perception des choses déformées. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Hein, quand on s'oppose aujourd'hui à certaines choses, vous allez le voir vite fait, d'ailleurs vous l'avez expérimenté. Hein, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour le mariage pour tous, de suite vous êtes exclu. Voilà, tu es un intolérant. C'est la tolérance, c'est la liberté. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Alors, c'est pas tout à fait ce que dit la parole de Dieu. Alors, il y a un conseil tellement important. Encore une fois, l'apôtre Paul va donner des conseils pratiques au jeune Timothée. Donc, un jeune pasteur qui vivait des moments difficiles dans une église. Mais bon, c'est que Timothée, ça n'existe pas ailleurs. Il y a des moments difficiles, on traverse des moments difficiles dans les églises. Mais là, c'est, en tout cas, Timothée, lui, traversait des moments difficiles. Regardez ce qu'il va dire. 1 Timothée, chapitre 6, verset 11. « Pour toi, homme de Dieu », il est en train quand même de l'encourager. Hein. Il dit, mais toi, tu es un homme de Dieu. En fait, tu as été appelé. Il lui rappelle, finalement, l'appel que Dieu lui a lancé. « Pour toi, homme de Dieu, fais quelque chose. Fuis ces choses. » Il n'y a pas d'acclimatation. Il n'y a pas essayé de voir pour voir si je vais résister. Dès qu'il y a un danger, l'enfant de Dieu doit fuir. Le plus loin possible. Je le dis concrètement, des fois il y a certaines choses, la seule chose à faire dans des relations toxiques, c'est de couper. La seule chose à faire pour pas qu'il y ait cet engrenage et que l'ennemi puisse nous avoir au même moment. Je prends cet exemple. On regarde quelque chose, on sait ce qui va arriver derrière, on prend la zapette, et puis on éteint la télé. Il faut être radical. Alors aujourd'hui, quand on est radical, le mot il peut être mal interprété. Mais face au péché, on doit être complètement radical. pas de tolérance. Et lui, c'est ce qu'il est en train de dire, fuis ces choses. Alors ici, c'était déjà une bonne chose de fuir, hein, une bonne réaction. Mais ça s'arrête pas là. Fuis ces choses et recherche. Fuir et recherche, deux mots tellement importants. Faut fuir et faut rechercher quoi? La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, chose que vous avez en abondance. Merci pour ceux qui ont souri, merci pour votre honnêteté. Les autres, on va attendre que ça fasse son effet et que ça vienne jusqu'à vous. En fait, c'est la réalité. Alors tout ça pour dire que le péché est là. Mais nous, nous devons nous protéger par rapport à certaines choses. Parce que le but de l'ennemi, c'est de mettre la pression sur le péché. Et coûte que coûte, nous devons déclarer certaines choses. Vous savez aussi qu'on doit dénoncer certaines choses. Quand il y a certains enseignements qui sont erronés, que vous tombez sur une vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Hein. Ben oui, hein. Bon, on n'est pas là pour polémiquer. Mais on est là pour enseigner la vérité. Et peut-être ça va éclairer quelqu'un aussi. Hein. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre plein d'autres dans nos discussions. On a besoin de rectifier ces choses. Donc, fuir le péché. Absolument, évidemment. Et puis, il y a une autre pression concernant la foi. C'est la pression, aujourd'hui, vous serez tous d'accord, sur la magie. Surtout dans la période qu'on va vivre là, dans quelques jours. Si vous allez dans n'importe quel magasin, hein, vous êtes au courant qu'il y a un événement la semaine prochaine. D'ailleurs, on va taper donc à votre porte, on va vous demander des bonbons. Et si vous ne donnez pas des bonbons, apparemment, vous allez recevoir des sorts. Hein. Mais derrière ça, vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine banalité, une certaine pression, où on banalise ces choses-là? J'étais effaré, alors que je regardais un reportage, des couples avec des enfants, des familles entières, qui vont aller dans des parcs connus, on ne fait pas la pub ici, où le thème, c'est Halloween, c'est le sang, c'est la violence. Et puis, les enfants sont là, complètement effrayés. Et je me souviens, là, j'ai l'image de cet enfant en sanglots et les parents morts de rire. La banalisation de ces choses-là, choses qui n'ont pas changé. C'est affligeant, hein, la réalité. Les magiciens qui sont là. La Bible nous montre que... Évidemment, ces choses-là sont à proscrire plus que jamais. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Je ne sais pas, Claude, si tu as eu le temps, parce qu'en fait, ce n'était pas en rouge. C'est le code entre moi et Claude. Donc, comme ça, vous avez les coulisses. Deutéronome, chapitre 18, verset 10, vous connaissez. Hein. Deutéronome. Chapitre 18, verset 10. Regardez comment le Seigneur, il ne banalise pas sur ces choses-là. Hein. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Et regardez la suite, verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. La suite est dit, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. On voit ici que c'est sérieux, hein. Quand il est dit, il est parlé des enfants qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça nous semble tellement logique. Ça me donne l'occasion de dire que, en tant que parent, on a des responsabilités. Est-ce que nos enfants regardent? Des fois, simplement pour se débarrasser et avoir un petit moment tranquille, on met les enfants devant une tablette, devant une télé, et il faut qu'on soit là pour vérifier. Parce qu'aujourd'hui, ne faites surtout pas confiance donc à ces choses-là. Parce que petit à petit, c'est cet esprit qui va rentrer, en fait. Alors, et jusqu'au moment où il va y avoir cette finalement banalité, on banalise certaines choses. Le Seigneur est venu pour également délivrer les choses occultes. Tout ce qui a trait à la divination. Il y a toute la liste qui est là, donc Deutéronome chapitre 18. Et pour cela, il faut faire confiance au Seigneur. On le remarque partout, hein, certaines histoires. Hein. À un moment donné, il y avait un homme qui était tellement possédé, hein, par les esprits, ils étaient plusieurs. À un moment donné, ils avaient essayé de l'attacher. Puis, au final, ils n'avaient pas pu, donc ils vivaient donc, dans les tombeaux. Je ne vous dis pas la scène. Hein. Dans les tombeaux, il était nu. Et à chaque fois que les gens passaient par là, donc évidemment, hein, ça créait des situations qui étaient difficiles à gérer. Et puis, Jésus va venir le délivrer. Et j'aime beaucoup ce passage, parce qu'à la fin, donc pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, il va y avoir ce dialogue avec le Seigneur Jésus, et puis au final, il va être délivré. Et j'aime beaucoup quand il est dit, il était assis et dans son bon sens. Assis et dans son bon sens. L'autre fois, il y avait des personnes donc qui avaient touché à des choses qui n'étaient pas terribles. Le Seigneur est venu pour délivrer. Moi-même, j'ai pu expérimenter à un moment donné. Hein, voilà, j'ai pu le témoigner plusieurs fois. Quelqu'un qui avait touché voilà à certaines choses. Et puis ces esprits-là s'attaquaient aux enfants. Alors après, quand c'est comme ça, pasteur, vous pouvez venir. Alors. On m'appelle me disant, voilà, il y a des manifestations dans la maison, est-ce que vous pouvez venir? Alors, sur le coup, j'ai dit oui. Il fallait 10 minutes pour y aller. Je vous promets qu'en 10 minutes, je me suis pardonné des péchés que j'ai pu faire, les inconscients, ce que je croyais que je n'avais jamais fait, voilà, tous les péchés possibles et inimaginables, parce qu'en fait, pardonner de prise à l'ennemi, c'est ça, en fait. Hein, c'est ça. Et puis, je vous promets, alors je le dis, mais... pas pour élever, glorifier qui que ce soit, au contraire, hein, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par la force toute puissante. Quand je suis rentré dans cette maison, l'esprit qui avait au-dedans de moi chassait ces démons. Sans que je fasse quoi que ce soit, sans que je commence à prier, ni rien du tout. Je suis rentré dans la maison, je vous promets, vous savez quand de l'eau et de l'huile essayaient de se mélanger, en fait ça fait fuir, hein, ça repousse. Et j'ai fait le tour de toutes les pièces. Et puis, on a prié, il y a eu une libération. On va dire, rien de spectaculaire. Dans la tranquillité, simplement par la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, plus que jamais, on doit être revêtu de cette puissance. Parce que on le voit. Pourquoi je vous ai donné ces exemples? C'est parce que dans la Bible, évidemment, on voit ces choses-là. Et aujourd'hui, comme par hasard, il semblerait que ces choses-là aient disparu. Mais il y a encore des gens qui sont dans ces choses-là, qui ont besoin de libération, qui ont besoin d'être délivrés. Et donc, on veut que ces gens-là viennent, soient délivrés sans faire des choses. Des fois aussi, on voit certaines vidéos sur des délivrances, comme si ça dépendait de nous, en fait. C'est-à-dire, ça dépend pas de nous. Jamais de sa puissance. Je le répète, je le martèle, parce que c'est tellement important. Alors, quand on a touché à ces choses-là, cette banalité, cette pression par rapport à l'occultisme, les choses occultes, ben en fait, il faut qu'on en soit pleinement conscient. Et nous-mêmes, en tant qu'Église, nous sommes la lumière de ce monde, le sel de cette terre. Et nous devons porter très haut l'étendard de la croix. Les couleurs, nous appartenons au royaume de la lumière. J'aime beaucoup parce que dans certaines églises, par exemple, vous savez que donc dans cette période-là, la semaine prochaine, certains vont fêter les ténèbres. Et donc pour contrer tout ça, il y a certaines églises qui fêtent la lumière. On l'avait fait sur Carpentras, Béziers, dans plusieurs églises, où en fait on invite donc tous les enfants. Tous les enfants des quartiers, et il y a des jeux, il y a des animations un peu style kermesse, ou qui sont basées sur la lumière. En fait, c'est notre message. Plus que jamais de pouvoir marteler ces choses, et même si on se démarque, on peut être discriminé. Mais nous avons le Seigneur avec nous. Et surtout pas tomber dans cette facilité et donc de se dire bon ben c'est dans l'air du temps, c'est comme ça. Mais Dieu condamne fermement tout cela. Et en tant que peuple de Dieu, on doit prendre du temps dans la prière. Dire Seigneur, la semaine prochaine, il va y avoir des choses. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein, cette période-là, tous les satanistes tournent un peu partout. Et c'est là en fait parce qu'en fait ils ont voilà, tout est ouvert en fait. On leur permet de faire ces choses-là. Et je crois que le peuple de Dieu doit s'unir. Vraiment, déjà personnellement, pour refuser ces choses-là, et nous-mêmes inculquer à nos enfants ces choses qui ne sont pas terribles. Je dis ça parce que, sous forme d'amusement et de sortie, par exemple, l'année dernière, sur les réseaux sociaux, je vois un frère en Christ avec ses enfants. Des fois, je me dis, mais on est dépassé. Je dis, mais est-ce qu'on réfléchit ? On a vu que le Seigneur nous donne l'intelligence. Prends une photo avec ses enfants, ils sont allés visiter un parc où on fêtait Halloween. Alors évidemment, il faut écrire, tu fais quoi là ? Oui, mais c'est pour les enfants. Ouais, ça commence toujours de façon anodine, de façon, on va dire, innocente. Mais derrière, les ravages que ça peut faire. Et je vous le dis parce qu'on l'a expérimenté, hein, la famille d'Henriette. Deux cousines à elle qui avaient touché à ces choses-là, et puis elle s'en vantait. Aujourd'hui, 2025, cette famille est décimée. Ils ont perdu des enfants de façon tragique, après un orage. L'enfant descend, un gros orage, ça s'arrête, le soleil revient. L'orage vient juste de passer. Une enfant, là, 6-7 ans, touche le poteau. Électrocuté sur le champ. Terrible. Derrière ça, ces deux cousines, elles n'en sont pas encore sorties dans la dépression sévère. Vivent dans le noir. Tout ça pour dire qu'il y a des conséquences à ça. Il n'y a rien de banal, surtout pas nous, de banaliser ces choses-là. Alors, quand on... Il se peut qu'à un moment donné, par ignorance, on ait fait certaines choses. Alors, il faut revenir au Seigneur, reconnaître son péché, sa culpabilité, après avoir touché les choses que Dieu condamne, et ensuite détruire peut-être même tout objet. Un jour, peut-être, on discutera certaines choses qu'on ne veut pas se débarrasser, ou il y a comme un sentiment qui est là, une superstition. Pose la question, est-ce que le chrétien peut être superstitieux ? Question. Alors ici... On est des personnes, des frères et sœurs de tous horizons. On vient de différents pays et on a tous une idée par rapport à tout ça. Mais nous, notre ligne de conduite, c'est la parole de Dieu. Plus que jamais. Amen. Et puis, il y a une autre pression, c'est la pression de l'idolâtrie. Aujourd'hui, on idolâtre facilement, hein. Vous avez remarqué ? Et banalement. On n'a pas honte, hein. Regardez, vous me direz, le pasteur, il n'arrête pas de regarder la télé. Ne vous focalisez pas simplement sur ça. Hein. C'est juste, je donne des exemples, je regarde de temps en temps. Et en fait, quand je regarde la télé, je veux que ça m'instruise, en fait. Regarde pas les feux de l'amour, je ne sais pas si ça existe encore. Ces choses-là. Hein. Bon, ceux qui regardent les feux de l'amour, on priera pour vous tout à l'heure. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, le Seigneur est capable de délivrer même de ces choses-là. Regardez un reportage, la vénération des sportifs. Aujourd'hui, c'est une idolâtrie. Hein. Les enfants font les coupes comme certains joueurs super connus. Des sportifs, il y a une identification. Et ça, on le voit un peu partout. Et eux-mêmes, donc les jeunes hommes, Daniel a subi avec ses amis cette pression de l'idolâtrie dans un pays idolâtre. Mais la clé de tout ça, ils ont pu résister à ces choses-là, à la pression de l'idolâtrie. La clé, c'est chapitre 1, verset 8. Daniel, donc, et ses amis résolurent dans leur cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Ah, il y avait un risque derrière, hein. Mais ils se sont résolus. Que dit la Bible par rapport aux résolutions ? À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Et sur l'inverse, qui veut avoir du succès ? Soyez résolus dans les choses de la parole de Dieu. Dans la pression de l'idolâtrie, c'est quoi l'idolâtrie finalement ? Si on posait la question comme ça, il y aurait peut-être sûrement même des opinions divergentes. L'idolâtrie, c'est le fait d'aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu. Et des fois, quand on pense à idolâtrie, automatiquement, On va penser à statues. Les gens qui se prosternent devant les statues. Il y a des choses un peu plus anodines, un peu plus simples, qui peuvent devenir des idoles dans notre cœur. Un travail. Situation familiale, les enfants, quand ils ne sont pas mis à leur place. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les enfants, hein, vous comprenez bien, hein, que ce soit clair, hein, évidemment. Mais on voit quand ces choses sont bouleversées, quand on s'est mis à la place de Dieu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et c'est comme un peu l'idolâtrie. Son origine, on la retrouve dans Genèse chapitre 3, verset 5. Là, ici, vous resituez le moment, hein, Genèse 3. L'ennemi vient, la tentation. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comment ? Comme des dieux. Et aujourd'hui, l'homme poursuit cette vision-là. Être comme des dieux. Je remarque également que c'est des dieux, il y a un D minuscule. Et quand on écrit Dieu, c'est un dieu avec un majuscule en forme de respect. Connaissant le bien et le mal. Et aujourd'hui, c'est ici qu'on retrouve l'origine. Donc l'origine, elle est diabolique, on le voit. C'est l'ennemi qui inculque ça. Elle n'est pas compatible avec la foi. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet, l'apôtre Paul qui parle ici, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. Vous avez rebroussé chemin, en abandonnant quoi ? Les idoles, pour faire quoi ? Servir le Dieu vivant. C'est moi qui fais les parasites. Voilà, en servant le Dieu vivant. Ici, on voit qu'il y a des choses, encore une fois, à abandonner. Abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant. Les formes variées et subtiles de l'idolâtrie. Une idole, c'est ce qui domine celui qui s'y livre. Il y a beaucoup de plaisir dans la vie, des biens matériels qui veulent détourner notre attention pour nous empêcher de servir Dieu. Il y a l'histoire, un jour, de quelqu'un, c'était un joueur de rugby assez connu, qui un jour a été touché par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et puis, voilà, et c'était le début de sa conversion, et puis il y avait encore un attachement avec le rugby, et vous savez que le rugby, c'est le dimanche, hein, en général, c'est le dimanche. Puis il allait là, puis quand même comme un tiraillement, puis le Seigneur à un moment donné est intervenu en disant, voilà, tu as cette idole-là, pour toi ton idole c'est le rugby. Est-ce que tu es prêt à sacrifier cette idole-là? Alors merci Seigneur parce qu'il l'a fait. Hein. Aujourd'hui, plus de 50 ans après, alors évidemment, hein, en tant qu'ancien rugbyman, quand on se voit, première des choses, voilà, hein, on s'inquiète de la santé, et puis assez rapidement, viens, alors, tu as regardé tel match, tu as fait ceci, tu as vu, voilà. Mais là, il en est complètement détaché. Attention, pourquoi je prends cet exemple? Parce que des fois, il y a certaines idoles, je sais pas, la musique, il y a des musiciens au milieu de nous. Ah, c'est une bonne chose. Moi, je bénis Dieu. Hein. Sylvain a un talent énorme. Hein, vous l'avez vu ce matin. Mais il faut faire attention. Ça peut prendre la place de Dieu. Je prends cet exemple, hein, pas pour afficher évidemment Sylvain, mais dans plein d'autres domaines. Bon, c'est déjà fait trop tard. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, c'est les petites choses qui sont là, qui peuvent prendre une place et la place de Dieu. Et quand l'ordre est inversé. C'est là, en fait, où tout bascule, et on le voit ici par rapport à l'orgueil. Et la Bible nous montre, et on va terminer, Colossiens chapitre 3, verset 5. Et ce verset, cette exhortation, ce conseil. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Alors, si ça s'arrêtait là, on aurait un gros point d'interrogation, mais c'est quoi? Alors, il va un peu plus loin pour expliquer. Et bien, c'est quoi? C'est l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, tout englobé, qui est une idolâtrie. Alors ici, on a déjà des points de repère pour fuir ces choses-là. Alléluia. Et que Dieu nous préserve de cette pression que l'ennemi exerce sur notre foi afin que nous puissions vraiment nous tourner vers le Seigneur, refuser le mensonge et la compromission. Ça, c'est le conseil que je pourrais vous donner ce matin. Des choses que l'on doit refuser automatiquement, persévérer dans la pitié et résister avec l'aide et le secours de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette matinée. Nous t'avons loué, nous t'avons, Seigneur, béni. Seigneur, tu as œuvré dans les vies, dans les cœurs. Nous avons passé un excellent moment, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, je veux te demander maintenant, Seigneur mon Dieu, de confirmer ta parole. Seigneur, peut-être que quelqu'un a besoin de rectifier quelque chose dans sa vie, Seigneur, face à la pression de l'adversaire. Que nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, nous soyons trouvés, Seigneur, en élevant très haut l'étendard de la croix. Que nous puissions pas voir honte, peur, Seigneur mon Dieu, de dire qui nous sommes finalement. Nous sommes tes enfants. Seigneur, que celui qui doute de son identité, Seigneur, l'identité que tu lui as donnée, cette nouvelle identité du ciel, Seigneur, ne puisse plus douter de ces choses-là. Seigneur, je te prie de tout mon cœur. Je te prie pour celui, peut-être ce matin, ou celle qui est là, et qui est au point de défaillir. Seigneur, que ta parole puisse les encourager à persévérer, à ne jamais abandonner, que l'ennemi poursuit une œuvre, c'est de détruire, c'est d'égorger. Seigneur, que tout cela serve pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour la semaine qui va arriver, cette semaine particulière pour, Seigneur mon Dieu, le monde des ténèbres, Seigneur mon Dieu, les forces du mal, Seigneur. Nous sommes ton Église, nous sommes ton peuple, et nous voulons briller, Seigneur, dans les ténèbres. Alléluia, aide-nous à témoigner, Seigneur, à ceux et celles vers qui tu vas, Seigneur mon Dieu, nous conduire, que nous portons, Seigneur, vraiment ta parole là où il y a les ténèbres, afin que des gens soient délivrés, libérés en ton nom, Seigneur. Nous te disons, à ton nom seul soit toute la gloire. Merci, ô notre Dieu. Amen et amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.